Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon film. Merci pour l'invitation. Je suis le docteur Gallet, je suis médecin psychiatre sur le CHU d'Angers et je suis accompagné du docteur Maïeta. Je te laisse te présenter.
Médecin addictologue aussi sur le psychiatre addictologue, mais addictologue en premier, sur le CHU d'Angers aussi. Merci de nous avoir invités. Je suis très content de voir qu'il y a dessiné médecine. C'est un serpent de mer sur Angers. Il se fait casser la gueule il y a une dizaine d'années avec la PACES. Je suis content de voir que ça se relance et tout. C'est cool. Peut-être, des questions préliminaires. Après, on pourra discuter un petit peu. C'est mieux. Après, il n'y a pas que des médecins et des étudiants en médecine. Donc, pareil, hein, c'est pas parce que ça a été monté par l'ADEMA que vous n'avez pas le droit de citer, je pense.
Merci. La première partie du film, on a une prise en charge assez lourde, sinothérapie, électrochoc, traitement, prise en charge. La deuxième partie, on n'en parle plus, et on a un soutien environnemental, un soutien familial, et on a l'impression qu'en l'absence de toute prise en charge, compte tenu de capacités intellectuelles, pas normalement, mais très élevées, d'une volonté de fer, on a l'impression que ce monsieur arrive à cohabiter avec des hallucinations qui avaient, dans la première partie, paru à la limite dangereuses, puisque incitant au meurtre. Donc on a l'impression que, deuxième partie, on peut penser que le traitement n'a pas tant a été en échec, et que l'environnement et le soutien a permis à ce monsieur, compte tenu de ses compétences, de s'en sortir. Alors je me demande, ma question est, est-ce qu'on peut vraiment contrôler à ce point des hallucinations, compte tenu de ses capacités intellectuelles ou d'une quelconque volonté ?
Très bonne question. Il y a un moment donné, c'est dit quand même qu'il continue à prendre des traitements dans la deuxième partie, même si effectivement ils n'appuient pas du tout là-dessus. Et il y a un autre élément quand même sur la question du traitement, c'est la chronologie. Les antipsychotiques sont des molécules qui sont assez récentes. La première, tu me diras des bêtises, enfin tu me corriges Quentin, mais il me semble que c'est 1950 la chlorpromazine. Plus on avance, plus les traitements sont à la fois bien toléré, parce que là on a quand même une bonne image y compris sur la sphère intime des retentissements du traitement, hein. Du coup ça joue quand même sur l'efficacité, enfin sur l'amélioration secondaire. On checkait là juste à la fin du film, il est un peu romancé, c'est-à-dire qu'il y a eu 25 ans entre le moment où il déclare sa schizophrénie, ce monsieur, et le moment où il arrive à fonctionner, ad intégrum, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas avec une forte autonomie, etc. Donc, première partie, les traitements, même s'ils sont moins mis en avant sur la deuxième partie, et on peut comprendre pourquoi dans la trame narrative, hein, ils sont présents et il y a une amélioration. Alors pour le coup, je n'ai pas en tête quel traitement il y avait à ce moment-là, surtout aux États-Unis très clairement, mais en tout cas il y a une amélioration de ce côté-là. Et à côté, effectivement, la capacité à pouvoir critiquer, à pouvoir faire ce qu'on appelle de la remédiation cognitive, ces choses-là, c'est essentiel pour pouvoir maintenir les choses. Et d'ailleurs, si on n'a pas une adhésion sur les traitements, on le voit, hein. On arrête les traitements et ça ne fonctionne pas non plus. Donc les deux ensemble, le 3 avec le soutien familial, l'environnement, etc. Là, il n'y a plus dans la deuxième partie le docteur Rosen, mais théoriquement, il y a quand même des soins qui se nichent quelque part pour pouvoir, pouvoir évaluer, remettre en place, évaluer s'il y a des moments, des facteurs de stress particuliers, essayer de les accompagner, etc. Voilà pour ma partie de la réponse. Je ne sais pas, Quentin.
J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que je trouve que c'est, en fait, c'est un parti pris dans le film de faire une partie effectivement thérapeutique, sachant que c'est une des années un peu charnières en termes sur le plan pharmacologique, parce qu'il y a eu des bons énormes dans l'avancée des thérapeutiques, et en même temps d'appuyer sur effectivement la prise en charge qu'on pourrait appeler médico-sociale, c'est-à-dire l'environnement, et en même temps la psychothérapie. Alors là, c'est sous une forme un peu romancée, mais on peut imaginer qu'il aurait travaillé avec un psychologue ou un psychiatre, faire de la remédiation cognitive. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est, et c'est quand même important de le souligner, c'est que l'objectif, ce n'est pas d'annuler les hallucinations qu'il a, c'est avant tout de soigner un retentissement. Effectivement, comme vous le disiez au tout début, il pouvait être agressif, et puis il y avait probablement un état émotionnel pénible pour le patient, et puis à la fin, il finit par les accepter. Elles sont là, et elles sont beaucoup moins anxiogènes, elles sont probablement moins envahissantes au quotidien. Il les voit, mais elles ne le gênent plus. Et c'est pour ça que c'est l'objectif, c'est pas à la limite qu'il ait des hallucinations, qu'il n'en ait plus, c'est comment il le vit. Et je trouve que c'était un point assez intéressant qui était démarqué dans le film. Pas grand-chose de plus, j'essaie de revoir... Et puis oui, alors l'environnement est extrêmement important, et c'est pour ça que lui, effectivement, comme vous le disiez, hein, il avait des ressources cognitives probablement plus élevées que la moyenne. On sait que quand on a... Alors il avait déjà des troubles cognitifs au début du film, hein, on le voit, les cognitions sociales par exemple sont très altérées, donc il y a déjà probablement des troubles cognitifs qui n'empêchent pas de faire des calculs mathématiques, mais qui l'empêchent en tout cas d'interagir avec les autres. Et d'autres éléments un peu plus fins qui sont bien faits dans le film. C'est une pathologie cognitive, et donc forcément, ça a un retentissement aussi sur la vie de tous les jours. Et si on est aidé avec, là, dans le film, une conjointe qui est présente à 24, qui nous aide à prendre nos traitements, qui est un point qui permet, en tout cas, effectivement, d'avoir une solidité environnementale, et forcément, le pronostic de la maladie est meilleur. On le voit, les patients qui sont seuls, isolés, et ben forcément, ils ont un pronostic, en tout cas, de leur maladie, et en tout cas un retentissement, d'une part, sur la qualité de vie, sur est-ce qu'ils vont être capables un jour de retravailler ou même d'avoir des relations sociales plus ou moins adaptées, c'est un facteur important. J'ai perdu l'autre chose que je voulais rajouter, mais ça me reviendra. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Que des personnes veulent. Ouais, question à gauche.
Moi, c'était juste sur les hallucinations. Ce serait pour savoir si, dans la vraie vie, est-ce que elles sont aussi entre guillemets, c'est toujours les mêmes quoi qu'ils voient dans le film. Est-ce que dans la réalité, c'est la même chose quoi.
Alors, c'est toujours difficile parce que dans les films, ce que les réalisateurs aiment bien montrer, et c'est parce que ça s'entend hein, pour l'histoire. C'est les hallucinations visuelles. Vous regardez de manière générale tous les films qui parlent de psychiatrie et de troubles schizophréniques, il y a beaucoup d'hallucinations visuelles. En pratique, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare et assez rarement aussi construite. Là, il voit des personnages, elles vivent autour de lui. C'est des hallucinations très construites. Et en même temps, pendant le film, je me suis dit, on pourrait aussi. C'est aussi une façon d'imager. Par contre, ce qu'on voit plus souvent, c'est dans les troubles schizophréniques. C'est les hallucinations qu'on appelle acoustico-verbales, qui sont des hallucinations en fait, que la personne entend. Alors elle peut être à l'intérieur de lui-même, où il entend cette voix, soit avoir des mots positifs envers lui-même, soit avoir des mots négatifs, ou en lui intimant des ordres. Par exemple, à un moment dans le film, il a cette voix qui lui dit, en tout cas ce personnage, mais presque, on pourrait, peut-être que le réalisateur avait cette idée-là, mais en fait, il personnifie un peu l'hallucination. Ce qui est d'ailleurs, tu me diras Lou si je me trompe, mais qui est utilisé dans certaines formes de thérapie augmentée, où on personnifie l'hallucination et le patient permet de communiquer avec son hallucination et donc la voix intérieure qu'il a, pour essayer de reprendre du contrôle sur ses hallucinations et de les critiquer et d'être capable en fait, d'apaiser un peu, de diminuer le retentissement des hallucinations. Donc je pense que dans ces films-là, je le trouve assez bien construit pour que le réalisateur ait pris le parti de dire bah, « je vais personnifier l'hallucination » pour pas que ça soit sans cesse, parce qu'on pourrait imaginer le film où c'est que de l'hallucination intrapsychique, ça serait, je pense, assez chiant à regarder. Je sais pas si Lou, tu veux rajouter quelque chose.
Oui, juste. Donc il y a effectivement la modalité sensorielle sur les alus. Il y a aussi effectivement, là c'est tout le temps systématiquement les mêmes personnes, ce qui permet quand même pour notre protagoniste de pouvoir l'identifier plus facilement. Même si on, avec le alors je suis pas sûr que son nom ait été donné, le mec qui vient pour l'amener pour la cérémonie des stylos là, on voit que il se méfie des nouvelles personnes, donc probablement que est passé sous silence d'autres hallucinations qui auraient pu se mettre dedans, quoi. Donc c'est vrai que ça donne quand même, enfin c'est très anxiogène ce risque en permanence, quasi en permanence, d'avoir des perceptions sensorielles sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer. C'est une maladie qui est très compliquée à vivre. Et du coup, pour répondre à la question, non, effectivement, c'est très, pour le coup, très romancé.
Je voulais juste rajouter par rapport au commentaire tout à l'heure. C'est vrai que quand on est médecin et quand on fait la psychiatrie et qu'on s'occupe des troubles schizophréniques, on est content quand ils arrivent à critiquer leur processus délirant. Juste, c'est pour un peu une information qui est assez intéressante. On s'est rendu compte que donc, ce qu'on appelle l'insight, c'est la capacité que l'on a à comprendre ce qui nous arrive et un peu avoir une critique, en l'occurrence là, de sa pathologie. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, ceux qui avaient un très bon insight, on est content parce qu'ils critiquent et on peut travailler avec eux. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient une qualité de vie nettement moindre, en tout cas, et qu'il y avait plus d'épisodes dépressifs liés au fait qu'ils avaient une connaissance de leur pathologie. Donc, l'insight est bien pour faire de la psychothérapie, mais il y a un côté un peu négatif de celui-ci qui est « je prends conscience que j'ai une pathologie chronique, sévère, et qui aura un retentissement toute sa vie. » Lui, il en rigole, mais c'est cette scène où il est sur sa chaise en train de faire des mathématiques, c'est qu'il y a un retentissement là, non pas de l'expression de sa pathologie, mais du retentissement de « je sais que j'ai une pathologie chronique et que je ne retravaillerai plus jamais de ma vie ». Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, devant, il y a une question.
Merci. C'était pour savoir, au début du film, quand il est dans l'hôpital, au début, ils disent que les patients ont du mal à discerner le faux du vrai. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que des personnes réelles, est-ce qu'il peut y avoir des hallucinations sur des personnes réelles ? Par exemple, imaginez une discussion devant quelqu'un qu'on a vraiment devant nous, mais il nous dit quelque chose d'irréel. C'est pas vraiment ce qu'il est en train de dire. D'imaginer une fausse conversation.
Alors, stricto sensu, quelque chose comme ça, moi, j'ai jamais vu. Je pense pas qu'il y ait tant que ça. Ce serait extrêmement construit. Par contre, ce qu'on peut avoir, et c'est vrai que là, on n'a pas... c'est du cinéma, donc on voit beaucoup le côté hallucination, mais on n'a pas du tout parlé du fait que les hallucinations sont que la base sur laquelle va y avoir un délire qui va se construire. Il pourrait y avoir uniquement, et comme en fait ce qui se passe sur la fin, il a toujours des hallucinations, John Nash, mais par contre, il n'y a plus de délire qui va avec, donc il n'y a plus de retentissement. Le délire, c'est tout ce qui se construit, c'est l'échafaudage mental sur lequel il se dit « bon bah, je suis un contre-espion, quoi, un truc comme ça, j'ai une mission importante », tous ces éléments-là, en fait. Donc, ces éléments-là, ils sont sous-tendus par des hallucinations, mais aussi par des biais cognitifs importants, des biais cognitifs, des troubles de la cognition de la continuité de la cognition, des choses comme ça. Et ces éléments-là peuvent entraîner un trouble de la compréhension, même sur des éléments une conversation classique où on peut avoir soit par exemple on va être interprétatif, je te souhaite bon courage, il y a des éléments délirants et du coup tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il me dit bon courage, est-ce qu'il sous-entend que je vais devoir affronter des trucs particuliers, est-ce qu'il me menace en fait le gars. Ça, je la fais caricaturale très rapide, mais c'est ça. Ouais, t'avais un... ça t'allait content.
Non, non, pas forcément de commentaire. C'est vrai que on en parle. Mais toujours les hallucinations, c'est toujours le truc clairement le plus marquant. Et en fait, c'est un des critères de la schizophrénie, des troubles schizophréniques. Mais en fait, il y en a plein d'autres et qui sont assez peu abordés de manière générale dans les films. Alors il y a un peu l'aspect cognitif qui est abordé dans ce film-là. On voit qu'il y a une rupture avec le avant où il arrive à encore fonctionner sur le plan, on va dire, intellectuel, mathématique et logique. Et il y a effectivement un moment la décompensation la plus aiguë et il y a un décrochage cognitif qui récupérera jamais. Ça, c'est aussi une réalité qu'on observe chez les patients. Il y a vraiment, au moment de la crise, il y a un décrochage cognitif. C'est pour ça qu'initialement, d'ailleurs, c'était appelé la démentia précoce, c'est-à-dire que c'était vraiment cette idée de trouble cognitif évolutif. Alors, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément une dégradation comme une pathologie neurodégénérative, mais il y avait une dégradation cognitive au cours du temps. Donc ça, c'est une autre sphère un peu... cognitif de la schizophrénie qui est assez peu abordée, et puis les symptomatologies négatives qui sont le repli sur soi, l'isolement, des formes de qu'on appelle, alors sans rentrer dans les termes techniques, mais c'est la perte même de l'envie ou la même de la pensée, c'est-à-dire je voudrais aller chercher mon croissant le matin, ben, j'ai même plus la pensée de je vais aller chercher mon croissant le matin. Donc on a des formes comme ça qui est extrêmement handicapante au quotidien, qui sont difficiles, je pense, à imager dans les films. Donc il y a les hallucinations, il y a aussi ces autres symptômes qui sont en fait tout aussi handicapants et qui empêchent les patients souvent de voir une activité professionnelle, en tout cas, on va dire, égale à ce qu'elle était avant la décompensation. Et puis l'aspect, effectivement, des processus délirants, et ça plutôt bien décrit dans le film, avec ce phénomène où, même pour quelqu'un de très logique, qu'importe la logique, en fait, puisque toute la logique va nourrir le processus délirant. C'est-à-dire qu'il a beau être mathématicien de renom, et bien en fait, tous les signes qu'il voit sont logiques, c'est l'interprétation qu'il fait qui est pathologique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on part d'un esprit qui, normalement, on est capable d'émettre un doute. Dans le trou schizophrénique, il n'a plus de doute. Il est certain, et c'est ce qui fait le processus délirant et la souffrance qu'il en est. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Ouais.
Bonsoir. Justement, vous parliez du délire et qui était justement peut-être un reflet des hallucinations. Et on voit beaucoup dans ce film l'aspect qui est des délires qui s'auto-entretient, qui marque. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui est fréquemment observé dans les délires des patients schizophrènes? Est-ce que ça marque justement l'entrée dans la phase démentielle, avant le passage de la phase prédémentielle à démentielle?
C'est-à-dire, est-ce que tu peux me refaire ta question? Vas-y.
On a vu dans le film que les délires s'auto-entretenaient. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquemment observé dans la clinique? Est-ce que c'est le passage d'un état prédémentiel à démentiel?
Le délire a effectivement tendance à s'auto-alimenter parce que les fonctions cognitives, si tu veux, qui sont allouées à la fonction délirante, enfin qui dysfonctionnent en tout cas et qui entraînent le processus délirant, il va effectivement prendre les informations qu'il a dans son environnement et il va les interpréter au regard de son processus délirant. Donc en fait, tout ce qu'il va lire, tout ce qu'il va voir... Il peut l'interpréter, il ne va pas tout l'interpréter aux prises de son délire, mais il va en tout cas l'alimenter sur son processus délirant. Après, il est présent avant, comme dans le film, et à un moment, effectivement, il y a cette forme de décompensation qui est l'acmé, on va dire, qui est là où le processus délirant est le plus important. Et c'est pas forcément là où c'est le plus important, c'est là où il y a un dysfonctionnement et qu'il y a un retentissement sur son environnement et sur sa vie qui est tel qu'il nécessite une hospitalisation. Donc c'est vraiment, c'est pas forcément parce qu'il est plus délirant, c'est parce que son fonctionnement est plus altéré. Et là, dans le film, c'est les hallucinations et le processus délirant parce que c'est ce qu'on vous montre, mais c'est aussi les fonctions cognitives, c'est aussi parce que probablement qu'il arrive moins bien à se concentrer, qu'il arrive moins bien à travailler, qu'il arrive moins bien dans les relations sociales. C'est un ensemble qui fait qu'effectivement, il y a cette décompensation-là. Je ne sais pas si Lou, tu voulais...
Juste un mini point. Il faut bien séparer la question de la démence et la question de la décompensation. La question de la démence, c'est plus que statistiquement, on retrouve pour les personnes qui souffrent d'une schizophrénie un taux plus élevé de troubles cognitifs tardifs avec la notion de démence vésanique, des choses comme ça. C'est pas systématique. Et par contre, c'est associé à un plus gros temps de décompensation. Donc, alors, il y a plein d'hypothèses sous-jacentes qu'on peut faire en termes physiopathologiques, notamment les hypothèses inflammatoires qui commencent à être bien documentées quand même. Mais c'est deux choses différentes, et surtout c'est deux choses très différentes en termes de d'évolution et de stade. C'est-à-dire que la décompensation, d'ailleurs, le gros classique, c'est homme ou femme, ça diffère pas, mais jeune. Donc ça, bah effectivement, il peut y avoir plusieurs décompensations dans une vie. Par contre, bah la démence, ça demeure quelque chose, un problème du sujet âgé, plus ou moins âgé. Certains gérontopsychiatres ne verront pas les patients avant 75 ans, mais il peut y avoir des troubles cognitifs avant. Et juste un petit taquet, parce que je suis un peu taquin. On peut avoir des éléments délirants, interprétatifs, sans être dans un trouble délirant ou une schizophrénie. On a eu des petites vidéos en ce moment de gens qui contractaient pas ou des éléments comme ça. On peut avoir, non mais juste pour dire que on peut rentrer dans des éléments qui sont délirants, comme une grosse partie des éléments conspirationnistes, et très interprétatifs, sans avoir nécessairement une pathologie sous-jacente, schizophrénique, etc. Il faut nécessairement psychiatriser les choses. C'est juste le fait de ne plus pouvoir prendre du recul et critiquer ces éléments-là. Et en plus, dans la schizophrénie, bah, les pauvres, ils sont pas aidés par la présence d'hallucinations et des troubles, des difficultés cognitives préexistantes. Du coup, la question, peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est à l'instar des crises non épileptiques psychogènes, les CNEP, est-ce qu'il peut y avoir soit des délires, soit des alus, je pense que l'un ou l'autre, c'était le sens de la question, qui ne s'inscrivent pas dans un trouble schizophrénique mais psychiatrique au sens large et pour lequel peut y avoir des diagnostics excessifs? Bah, la réponse, c'est probablement oui. Comme par contre dans le film, entre la probabilité que tout le monde ait tort contre soi ou l'inverse, bah, faut pouvoir se... Effectivement, quand il y a une situation comme ça, se poser la question de ce qu'il en est. Mais c'est pour ça que la schizophrénie n'est pas définie par la simple itération d'une décompensation. Pour porter un diagnostic de schizophrénie, alors c'est le DSM-5... ça, mais c'est des notions qui sont là depuis très longtemps. Il faut une évolutivité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des éléments prémorbides, dont on a un peu parlé ici, des éléments d'évolution où on a le symptôme négatif dont tu parlais, les éléments de symptômes positifs, donc le délire et les hallucinations, et puis les éléments plutôt de désorganisation intrapsychique et entre autres, mais principalement les intrapsychiques et cognitives, je veux dire. Et du coup, c'est cette évolution, enfin, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui font porter un diagnostic de schizophrénie. Comme si, à l'instar des crises non épileptiques psychogènes, on ne porte pas un diagnostic de schizophrénie sur une situation unique. Enfin, en tout cas, on ne doit pas le faire.
Ouais, bah,
Sur les, c'est très important de pas définir le trouble schizophrénique effectivement sur la seule et comme tu l'as dit à juste titre hein, sur le processus délirant ou sur les hallucinations et notamment quand on fait de la psychiatrie du sujet âgé. C'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement d'une part dans les pathologies neurologiques qui sont très fréquentes et qui la prévalence en tout cas des phénomènes délirants et hallucinatoires augmente avec l'âge. Donc il y a des gens qui avec l'âge développent un trouble délirant ou des hallucinations qui sont pas du tout liées à un trouble schizophrénique. Donc il ne faut surtout pas restreindre l'hallucination, le processus délirant. C'est très cinématographique, mais c'est un pan du trouble schizophrénique. Quoi.
Et un autre élément de réponse, juste, c'est que cet élément-là, je parle au carabe, ça doit être systématique dans votre réflexion. En fait, quand il y a un trouble psychotique bref, donc un épisode de décompensation, comme on dit, mais le pronostic, c'est pour un tiers des gens, il y a une récupération ad intégrum, ou en tout cas, plus d'épisodes, plus de troubles, plus d'épisodes délirants. Pour un tiers des gens, une chronicisation plutôt sur un mode schizophrénique, et pour un tiers des gens, une chronicisation plutôt sur un mode trouble thymique. Donc on n'est pas du tout sur un épisode unique, égal, hop, traitement à vie, ça part.
Mais du coup, est-ce que les patients schizophrènes, est-ce qu'ils présentent forcément dans leur maladie une décompensation à un moment ou pas ?
Non. Voilà. non, mais c'est la partie la plus brillante, c'est la plus cinématographique, c'est la plus inquiétante aussi en termes de salubrité publique, je ne sais pas si le terme est bon, mais d'ordre public, les choses comme ça. Donc c'est une partie sur laquelle il y a quand même beaucoup de moyens, et notamment un peu répressif. Mais non, il y a des personnes qui ont une forme de schizophrénie, on va dire, qui ne présentent que des éléments, les éléments plutôt ce qu'on appelait anciennement le retrait autistique, avec des gens qui sont vraiment cloîtrés chez eux, et qui du coup emmerde personne, et personne ne se préoccupe d'eux particulièrement, à part peut-être la famille, et ça tient bon an mal an, et je sais pas si tout le monde est heureux, mais en tout cas, il s'y retrouve, quoi, tout le monde s'y retrouve.
C'était juste une question sur le traitement, c'est moi qui parle.
Ouais, pardon.
C'était une question sur le traitement qu'il avait pu avoir sur la table d'opération quand il était hospitalisé la première fois.
Je te passe le micro, du coup.
J'ose espérer que ça n'existe plus, mais quand même.
Non, ça n'existe plus. Alors, pour remettre un peu dans le... Alors non, la cure d'insuline, je crois que ça n'existe plus. Le traitement de choc existe encore. En gros, pour recontextualiser un peu, c'est une question qui est très importante. Pour recontextualiser un peu, vous projetez dans les années, on va dire 1915, 1930. Vous avez un patient qui arrive comme ça. Oui, mais c'est le début de la cure d'insuline, c'était avant les années 50, donc c'est-à-dire avant les thérapies pharmacologiques efficaces. Et donc. C'était issu de... Bon, en tout cas, ils avaient observé que les patients qui avaient un trouble schizophrénique et qui faisaient des crises d'épilepsie, ce qui n'était pas rare en fait, puisque très souvent, ils avaient un trouble comorbide qui était possible avec l'épilepsie, ben, en fait, ils allaient mieux après leur crise d'épilepsie. Et donc, en fait, ils ont, avant les années 50, ils ont cherché tous les moyens possibles, imaginables, pour déclencher des crises d'épilepsie chez leurs patients. Donc, c'est passé par la cure d'insuline, où l'hypoglycémie entraîne... Du coup, une épilepsie, ça a été des cures de Sakel, où on injectait la malaria aux patients, on ne le fait plus non plus. Et puis est arrivé les cures, ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie, que vous avez déjà dû voir dans d'autres films, genre Un vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est des choses qui parlent, qui sont très cinématographiques à chaque fois, qui sont... Pour le coup, c'est la seule qui reste utilisée parce que très encadrée et qui se font dans les hôpitaux avec des anesthésistes, donc les patients sont endormis, ça marche toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on déclenche une crise d'épilepsie dirigée, c'est pas une maladie épileptique, hein, c'est vraiment une activité électrique dirigée pendant une quinzaine de secondes, qui est régulée entre 15 et 25 secondes, je vois Luc et Tatillon, entre 15 et 25 secondes, et qui se fait sur les troubles psychiatriques les plus sévères, où effectivement la prise en charge médicamenteuse n'est plus suffisante, et qui est le traitement, un des traitements les plus efficaces qu'on a quasiment en médecine, tout traitement confondu, c'est-à-dire qu'à pathologie sévère équivalente, l'efficacité de la sismothérapie est un des traitements les plus élevés, et qui n'est pas utilisé que dans la psychiatrie, c'est utilisé de façon... Or, c'est utilisé dans certains troubles du comportement, dans les pathologies neurodégénératives, c'est utilisé dans la maladie de Parkinson. Et c'est sur le même principe, hein, dans la maladie de Parkinson, par exemple, les implantations au niveau des noyaux subthalamiques, hein, c'est le même principe, hein, c'est juste moins bourrin. C'est d'aller mettre une électrode pile au bon endroit pour stimuler la sécrétion dopaminergique, en l'occurrence dans la maladie de Parkinson. Donc l'électro-stimulation, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui s'affine et qui est un traitement efficace. C'est bien. Et si vous passez en tant qu'externe dans le service, vous en verrez. Et c'est important, par exemple, de désacraliser l'acte qui est très, très mal connoté dans l'histoire de la psychiatrie. Et à juste titre, hein, quand ils n'étaient pas anesthésiés et qu'ils faisaient ça à l'emporte-pièce dans une chambre, ça peut se comprendre. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose, Lou ?
Oui, quand même un élément qui, surtout quand là, il y a la question cinématographique... qui est très important, y compris pour ceux qui passeront en tant qu'externe dans le service, les patients sont anesthésiés, curarisés, ils ne sentent rien, et par contre, on leur fait passer un courant électrique dans le visage, enfin, un faible courant, on les électrise, on les tue pas, on les électrocute pas, c'est un tout petit courant, mais sauf que vous vous souvenez, alors je suis un peu vieux maintenant, mais peut-être qu'il y a encore en SVT le moment où on fait passer un courant électrique dans une cuisse de grenouille. La cuisse de grenouille se contracte. On veut passer un courant dans les muscles du visage, les muscles du visage se contractent. C'est pas une expression de douleur. Ça, faut vraiment l'avoir en tête sur toutes les représentations cinématographiques. Et aussi, nous, quand on sisme, on l'a en tête. Hein. Et quand on demande aux patients, c'est pas douloureux. Ils se souviennent pas des épisodes puisqu'ils sont anesthésiés. C'est plutôt bien toléré. Ça entraîne des problèmes mnésiques, mais c'est tout, des problèmes de mémoire. Mais sinon, globalement, c'est plutôt bien toléré et c'est un des traitements objectifs qui a son nez. Donc, c'est très impressionnant. Là, en l'occurrence, l'histoire des cures d'insuline, ça, c'était pas très bien toléré. Les cures de saquelles, c'était pas très bien toléré. Là, on a plutôt des choses qui sont intéressantes et pour lesquelles on continue à avancer avec des techniques prometteuses aussi.
Bonsoir. J'avais une question, alors là c'est pas trop sur la schizophrénie, mais sans avoir lu le synopsis du film, au tout début quand on voit le protagoniste, on s'oriente plus, enfin je sais pas si c'est perso, mais je m'orientais plus vers un trouble du spectre de l'autisme, et c'était pour voir si vous étiez un peu du même avis, ou si c'était juste... voilà.
En fait, alors, question très intéressante. Effectivement, les premiers traits qu'il présente se rapprochent beaucoup d'un trouble du spectre de l'autisme, et c'est pas pour rien, c'est parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. D'accord, ce sont on va appeler ça des troubles cognitifs pour faire simple, c'est-à-dire des troubles cognitifs qu'on acquiert. Alors, il y a une charge génétique importante des troubles du neurodéveloppement, mais en tout cas, il y a des acquisitions pour lesquelles on a plus de mal à le faire. Et dans ces troubles du neurodéveloppement, il faut le voir comme une évolution progressive. Et puis, il y a une partie des troubles du neurodéveloppement sévère qui, effectivement, déboucheront sur un trouble du spectre de l'autisme. Et il y a une partie qui arrivera aussi sur les troubles du spectre, schizophrénique, et d'autres dont on rentrera pas dans les détails. Mais effectivement, en fait, c'est un peu le même tronc, ces deux branches du même tronc, qui sont les troubles du neurodéveloppement. Et c'est en ça que c'est assez intéressant dans le film, c'est qu'on voit le avant, où il y a effectivement, on voit un trouble du neurodéveloppement assez important, qui fait effectivement un trouble du spectre de l'autisme, et qui est plutôt assez fin finalement dans la représentation cinématographique, et qui développe en fait un trouble schizophrénique. Donc en fait, il avait cette vulnérabilité-là, du trouble neurodéveloppement qui fait en fait la on va dire la suite du trouble schizophrénique, enfin, qui fait le trouble schizophrénique.
Pour compléter ou amener un deuxième point de vue, ce qu'on voit au début du film, il y a effectivement des troubles des cognitions sociales. Ça, dans la société actuelle, avec la médiatisation actuelle, on le rattache tous globalement au trouble du spectre de l'autisme. Il y a plein d'autres pathologies dans lesquelles, et encore, je ne suis pas sûr pour le coup qu'on puisse parler de pathologie. Autant la schizophrénie, il y a un retentissement, une souffrance très très importante, une évolution, etc. Donc oui, on est dans le cadre d'une pathologie, autant ben, effectivement, il y a tout un tas de dispositions neurologiques où il n'y a pas de retentissement particulier, où ça n'évolue pas, etc. Donc on n'est plus dans le cadre de la pathologie. Pour autant, là, certes, tout le monde a identifié les troubles des cognitions sociales. Certains ont peut-être identifié aussi... C'est une très belle image visuelle, l'histoire de la cravate, là, avec les rayons qui viennent se foutre dessus. Là. Et puis, on le voit aussi dans la manière dont il arrive à identifier les patterns, hein, les répétitions, les choses comme ça. En fait, il y a une hypersaillance chez ce monsieur, c'est-à-dire qu'il a plus que la moyenne la capacité à... d'ailleurs, plutôt une incapacité à inhiber des signaux qu'il va évaluer comme inutiles. Et il va être plus aigu là-dessus, et ce qu'on voit aussi là, c'est en tout cas pour lui, je ne sais pas si c'est la réalité, mais ça pourrait tout à fait, ça participait à sa capacité à travailler, à faire émerger des éléments globaux, quoi, je ne suis pas mathématicien, désolé. Et donc, ça c'est des éléments qu'on appelle des prodromes, chez une majorité de personnes qui vont développer une schizophrénie, il va y avoir des éléments prodromaux, il va y avoir des antécédents familiaux de premier degré, il va y avoir des éléments prodromaux avec les troubles des cognitions sociales, des éléments comme des hypersaillances, il va y avoir des soft signs neurologiques qui seront un peu plus fins, ou des troubles de la tronicité, des choses du neurodéveloppement, des petits retards d'acquisition, des choses comme ça, qui se baladent, qui ne font pas en soi un problème, et ensuite il va y avoir une décompensation. Mais un peu, alors c'est pas du tout la même chose, hein, mais un peu comme dans la démence, dans les maladies neurodégénératives et dans la démence, en fait il y a une compensation qui se fait, une sur la réserve cognitive dans la démence, et là en l'occurrence on n'a pas de terme consacré, mais en tout cas sur le fonctionnement cérébral, jusqu'à ce qu'il y ait un emballement de ces difficultés qui font que on n'arrive plus à compenser, et donc là on décompense, d'où le terme de décompensation.
J'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect neurodégénératif de la maladie. Et je me posais la question, peut-être la première question, ça devrait être, est-ce que c'est possible de guérir de la maladie, sans vraiment guérir? Et ce que je me demandais vraiment, c'était, est-ce que c'est possible de guérir sans traitement médicamenteux?
Là, tu poses la question douloureuse et épineuse de qu'est-ce que c'est qu'une maladie? Merveilleux, on va en discuter avec Jean-Marc Mouilly, mais globalement... comme je disais, on peut faire un épisode et ne plus avoir du tout de signe derrière toute la vie. Est-ce que dans ces cas-là, on a été malade ou pas? Je ne sais pas. On a présenté à un moment donné un tableau clinique, des symptômes, avec un retentissement. Il y a eu besoin de prendre un traitement, ça a permis de corriger les choses. Ça, c'est ce qu'on a vu au niveau phénotypique, macroscopique, quoi, au niveau... humain, entre guillemets. Si on va plus profond, y a eu des modifications cérébrales importantes, une inflammation importante, un emballement glutamatergique, des choses comme ça. Donc il y a des petites séquelles qui seront probables, mais qui ne sont pas suffisantes pour entraîner des séquelles qu'on voit au niveau humain, quoi, un retentissement important. Ça, c'est une partie des possibilités. Après, il y a aussi, effectivement, pour certains patients, alors c'est des mouvements, à ma connaissance, il n'y en a pas tant que ça en France, mais aux États-Unis, il y a par exemple les entendeurs de voix, qui sont en courant de l'antipsychiatrie globalement, qui disent, il n'y a pas nécessairement besoin de traitement. On peut vivre avec des alus auditives. Et pour une partie, ça roule. Il y a des... je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a... une universitaire, je ne sais plus son nom, désolé. Il y a une universitaire qui, pour le coup, souffre en tout cas d'hallucinations auditives et fonctionne malgré cela, sans traitement de ce qu'elle dit. C'est en fait là où, enfin en tout cas en psychiatrie, ce qui fait trouble, parce qu'on n'a pas de maladie, nous vraiment c'est des troubles, c'est le retentissement. Si on arrive à fonctionner malgré les symptômes, c'est pas un trouble.
La question, c'est est-ce qu'on peut guérir sans traitement aussi ? Si tu as une fois que tu as effectivement, que, on va dire, que tu déclenches la maladie chronique et que tu as effectivement un trouble schizophrénique caractérisé. Alors, si on devait la faire simple, c'est très difficile de vivre sans traitement. Si on veut la faire compliquée, probablement qu'il existe des formes, un peu sur le modèle des maladies inflammatoires, comme vous avez par exemple dans la sclérose en plaques. Des formes rémitantes, des formes récurrentes, enfin, des formes probablement un peu diverses et variées qui existent. Aujourd'hui, on n'en est pas là, probablement qu'un jour on y arrivera. Aujourd'hui, de la façon le plus simple d'y réfléchir, c'est de se dire que c'est une maladie chronique et que les patients, malheureusement, auront besoin d'un traitement à vie. Voilà. C'est, je pense, la façon la plus restrictive de fournir une réponse. De manière générale, quand les patients n'ont plus leur traitement, il y a un risque de décompensation. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une décompensation, il y a quand même à chaque fois une petite marge cognitive, même si ce n'est rien comparé au tableau démentiel. On n'est pas du tout à ce niveau-là sur le plan cognitif. Il y a toujours une petite marge qui est franchie et un retour à l'intégrum qui est quasiment pas possible.
Oui, pour mes exemples, c'est pour le coup... c'est la loi des grands nombres, quoi. Il y en a certains qui sont à droite de la gaussienne, d'autres à gauche de la gaussienne. Donc, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui arrivent à fond. Enfin, la réponse, c'est comme tout le temps en médecine, on peut jamais dire jamais. Il y a des personnes qui fonctionnent sans, et pour le coup, c'est cool, hein, parce que les traitements qu'on met en place, faut reconnaître, ont des effets indésirables. Et prendre un traitement au long cours pour toute pathologie, c'est quand même quelque chose. Quand en plus ils ont des effets indésirables qui peuvent être graves, c'est encore pire. Mais selon toute probabilité, quand on croise quelqu'un, enfin un patient, quand on rencontre un patient, les traitements vont permettre une stabilisation qu'il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu les traitements. Mais malheureusement, on ne peut pas dire pour l'instant, on n'a pas encore assez de données pour pouvoir dire. Cette personne que j'ai en face de moi, elle a une probabilité très forte de pouvoir d'avoir besoin des traitements, ou au contraire, elle a une probabilité qui est non nulle de fonctionner sans traitement. Mais voilà, il y a des exemples où ça fonctionne. La majorité des exemples, ça fonctionne pas. Ouais.
Moi, j'avais une question par rapport au lien, au rapport à la personnalité, au caractère de l'individu, parce que là, on avait quand même un personnage qui était assez particulier, qui avait une personnalité très forte, et on peut même dire que c'était un génie autant que c'était un fou, et que quelque part on avait l'impression qu'il y a, c'était une forme d'équilibre, que le fait qu'il soit aussi, le fait qu'il ait toutes ces hallucinations, ces démences, ça faisait partie de sa personnalité, puisque c'est quelqu'un qui voulait absolument être constamment stimulé et être reconnu comme un génie. Et même d'ailleurs dans son processus de guérison, on voit qu'il guérit aussi beaucoup parce qu'il diminue ses attentes, il change sa personnalité et il devient quelqu'un quand même de plus calme, plus un peu plus les pieds sur la terre, quoi. Et du coup, je voulais savoir si c'est des cas qu'on retrouve souvent, des gens où on a l'impression que la personnalité se mélange un peu avec la maladie, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est subi comme en dehors de la personnalité ? Je sais pas si c'est
très clair. Question difficile, très bonne question. Ça peut être les deux. Non, c'est un peu nul comme réponse. C'est principal. Enfin, on peut avoir de manière fréquente une intrication entre les éléments de fonctionnement et du coup la personnalité et les éléments pathologiques, entre guillemets. Il y a d'ailleurs dans les classifications et les cours des personnalités dites prémorbides, les clusters A, des troubles de personnalité qui sont des personnalités qui sont statistiquement associées à la survenue d'un trouble schizophrénique ou délirant, quelle que soit la forme. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Attends, vas-y.
La question de la personnalité est toujours une question difficile parce qu'elle est déjà, un, très difficile à définir sur le plan de la recherche. D'accord, c'est comment je définis une personnalité, comment je définis un trouble de personnalité, par quel moyen, par quel trait. Donc c'est toujours difficile de connaître le retentissement de la personnalité vraiment sur la pathologie. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, juste pour questionner sur le début du film, mais c'est à quel point sa personnalité n'est pas en fait altérée, si on peut dire ça comme ça, par en fait les troubles cognitifs qu'il a déjà, c'est-à-dire les troubles du jugement, l'altération des cognitions sociales, l'hypersaillance que Lou vous a parlé. Voilà, il y a déjà des choses en amont. Est-ce que c'est la personnalité qui entraîne un retentissement sur ces troubles cognitifs ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est extrêmement difficile à prouver. Après, est-ce qu'on voit en fait, effectivement sur la fin, est-ce qu'il a modifié sa personnalité ? Ce qui est assez peu probable, hein, quand on voit la personnalité, c'est quelque chose qui est relativement stable dans la vie. Par contre, ce qu'il a modifié, c'est effectivement c'est son rapport à son environnement, comment il l'interprète, et ça, c'est de la remédiation cognitive, en fait. C'est modifier, pas ma personnalité, mais modifier mes préceptes, mes cognitions sur qu'est-ce que j'attends de la vie, c'est quoi pour moi être heureux, etc. C'est faire de la remédiation sur ses propres cognitifs, et c'est pas forcément qu'il a touché à sa personnalité, c'est-à-dire que fondamentalement sa personnalité reste la même, par contre effectivement il a assoupli probablement certains traits qu'il avait pour rendre sa vie plus vivable. En tout cas c'est comme ça, ce serait un élément de réponse, mais la question de la personnalité est toujours très intéressante, mais en recherche assez difficile à montrer parce qu'elle est intimement liée aussi au reste, quoi.
Et un autre petit truc sur la question effectivement de là dans cette situation, comme il se méfie des personnes nouvelles, il se méfie aussi de certains chemins de pensée qui ont été associés aux éléments délirants. Là, les éléments autour des idées de grandeur de la mégalomanie, il a aussi dans ce côté remédiation cognitive. Alors, je suis pas sûr que ça ait été la remédiation cognitive formalisée, etc. Mais il a identifié que, ok, ça, ça pue. Si je commence à penser ça, si je commence à penser que la nation a besoin de moi, et ben ça va ne faire que commencer à construire cet échafaudage mental de délire. Donc, il y a donc la remédco, effectivement, c'est pas la même chose que la personnalité, mais. Voilà, c'est aussi un apprentissage, quoi. Sans que ce soit... ça se trouve que peut-être que lui, intimement, il est toujours en demande d'une reconnaissance, parce qu'initialement, il y avait cette demande de reconnaissance. Après, il l'a eu d'une autre manière. Il a réussi à se connecter aux gens d'une autre manière, via sa femme notamment. Et donc, il a peut-être moins besoin de reconnaissance parce qu'il a d'autres moyens d'interagir. Et puis, il a aussi la reconnaissance avec son... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le mec de Princeton, là, qui lui donne la place à la bibliothèque, tout ça. Enfin, voilà.
Bonsoir. J'aimerais aborder une autre question qu'on n'a pas encore mise ce soir-là. C'est sur le retentissement sur la famille, plutôt. En fait, dans le film, on voit que le patient il va être aidé à travers les médicaments. Il est encadré de la famille, il est encadré de son médecin. Mais derrière, on voit aussi sa femme qui est, pour moi, en besoin d'aide constant. On peut voir plusieurs émotions. Il y a la frustration, la culpabilité, le désespoir, le fait qu'elle soit incapable de faire quoi que ce soit. Elle en va jusqu'à se mettre en danger en brisant un miroir. Puis elle se culpabilise quand elle explique à leur amie Sol qu'elle a pensé à partir. Et parmi tout ça, je me dis, on ne peut pas la médicaliser. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des antidépresseurs, ça n'arrange pas le problème, puisque tout son foyer compte sur elle. On ne peut pas l'empêcher de travailler, parce que son mari est déjà arrêté. On ne peut pas lui donner des somnifères, ça ne va pas régler le souci. Donc, face à un patient, certes, qui a besoin d'aide, mais qui a déjà quelques ressources, qu'est-ce qu'on fait pour la famille?
C'est encore une fois une très bonne question. La souffrance de la famille et des proches, c'est un vrai problème, tout comme parfois on a aussi, alors pour des raisons qui s'expliquent, mais un système de santé qui n'est pas forcément les plus écoutants ou les plus aidants vis-à-vis des familles. Hein. Ce qu'on peut faire pour la famille, c'est, alors sans parler de médicaliser, pour le coup on peut la soutenir, y compris via de la psychothérapie de soutien par exemple. Ça, c'est une première chose qui ne nécessite pas la mise en place d'un traitement, mais juste vraiment, Audrey, désolé, le simple fait de pouvoir parler de ses difficultés sans que ce soit formalisé ou quoi que ce soit, déjà, ça va permettre de mettre de l'ordre dans ses idées. On le fait tous quand on discute avec ses potes et qu'on est en difficulté. Hein. Ça, c'est ne serait-ce que ça, prosaïquement, ça peut être un début de piste. Ensuite, il y a sociétalement la réponse qu'on a décidé d'aborder. D'avoir, qui n'est pas forcément la bonne, hein. ça se discute et c'est à nous de. Enfin, à nous. Plus ou moins à nous, mais de faire des choix qui permettront de changer les choses si on veut les changer ou de les maintenir si on veut les maintenir. On a décidé de mettre en place une possibilité de soutien financier pour le patient sous la forme de l'AAH, de la RQTH. Qui est un complément de revenu ou parfois l'unique revenu quand il n'y a pas d'autonomie suffisante pour maintenir un travail ou une semence trop importante pour maintenir un travail. Donc, pour le coup, on a pour l'instant, à ma connaissance, pas mis en place de choses. Alors, ça a peut-être avancé là un petit peu ces dernières années, il me semble que c'était en chantier. Mais autour de la reconnaissance de l'aidant, il y a des sociétés qui font différemment. Ça, c'est pas une. Enfin, comment dire. Je suis d'accord, il ne faut pas médicaliser les choses. Les médecins ont un rôle à jouer là-dedans parce que, de fait, ils sont quand même en train de diriger en partie le parcours de soins du monsieur. Mais, pour le coup, c'est des éléments qui sont sociétaux, qui ne sont pas des éléments médicaux à proprement parler. Après, si d'aventure, elle faisait un épisode dépressif caractérisé, ce qui pourrait s'entendre parce que trop de pression, privation de sommeil, toutes les raisons du monde, un trouble anxieux, un état de stress aigu sur le fait que son bébé il ait failli mourir, là on aurait une carte à jouer. Mais c'est effectivement pas nécessairement que du domaine du médical.
Pas grand chose à rajouter, c'est vrai que c'était bien souligné, on en parlait juste avant le film, c'est vrai que pour le coup il est bien en ce sens qu'il montre effectivement l'impact que ça a sur la famille, et c'est toute pathologie chronique en fait, hein. c'est le trouble schizophrénique, mais vous prenez une personne qui a une maladie chronique haute, un cancer, une maladie handicapante, une sclérose en plaques, une SLA, toute pathologie chronique qui a un retentissement fonctionnel important a forcément un retentissement sur la famille. Et là, vous avez l'exemple même d'un milieu extrêmement résilient. Donc c'est très hollywoodien. C'est vrai qu'en pratique, c'est très rarement le cas. Comme je le disais au tout début, hein, c'est aussi un facteur de résilience. Plus on a un milieu qui est résilient autour de nous, et on n'aura pas la même pathologie que si on avait un milieu qui n'était pas du tout résilient et qui n'était pas capable d'absorber tous les efforts que nécessite la pathologie chronique. Quoi. Donc après, en termes de soutien, comme le disait Lou, hein, ça se met en place, on le voit de plus en plus plutôt sur les filières non psychiatriques, plutôt gériatriques. Avec l'aide aux aidants, le soutien aux aidants, des associations aussi qui se montent. Alors, il y a pareil, hein, des associations, alors je ne les connais pas sur Angers, mais il y a probablement des associations pour l'UNAFAM. Oui, oui. Il y a des associations qui existent de soutien, c'est probablement insuffisant. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, c'est un point important si on veut préserver au maximum la pathologie du patient, que ce soit trouble schizophrénique ou autre, de prendre soin évidemment de son environnement, quoi. Oui, oui. Alors, en imagerie, en imagerie fonctionnelle, donc c'est tout ce qui est imagerie qui permet de voir l'activité de nos neurones qui fonctionne lorsqu'effectivement on a une décompensation psychiatrique ou même en dehors d'une décompensation psychiatrique. Et oui, en fait, de toute façon, la schizophrénie est une maladie neurologique, c'est-à-dire elle altère nos réseaux de neurones, comment en tout cas ils communiquent entre eux, et ça se voit plutôt très bien effectivement lorsqu'on fait une imagerie fonctionnelle. Le gros problème que l'on a, c'est notre problème, sans rentrer dans les têtes, de nomenclature. C'est-à-dire que notre nomenclature actuelle n'est pas suffisamment fine pour avoir des descriptions cliniques suffisamment intéressantes pour qu'on arrive à faire des vrais... comment on pourrait dire ça, comme disait Lou tout à l'heure, on peut avoir des troubles schizophréniques qui ne vont jamais décompenser de leur vie. Est-ce que c'est la même maladie que celui qui va faire 15 décompensations délirantes, comme dans le film ? En fait, probablement pas. Donc en fait, quand on fait de l'imagerie et de la recherche, on a tendance à les mettre tous dans la même boîte. Quand on les met dans l'imagerie, on a des choses un peu différentes. Donc on a plein de données. Donc oui, on voit des choses, on voit plein de choses intéressantes. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose en pratique ? Aujourd'hui, c'est toujours un peu difficile.
Quentin vous a donné la réponse du chercheur, moi je vais essayer de donner celle du clinicien. Il y a quand même des choses qu'on voit, avec même effectivement à l'IRMF ou à l'imagerie fonctionnelle, l'air du langage notamment qui est plus activé sur les hallucinations acoustico-verbales, l'air plutôt visuel qui va être plus activé dans les hallucinations visuelles. Donc on voit qu'il se passe quelque chose. Un deuxième élément que moi je trouve assez intéressant, enfin je trouve fou en fait, extraordinaire, c'est pour les personnes qui ont, pour une partie des patients qui ont des hallucinations acoustico-verbales, et ben, un moyen de diminuer les hallucinations, c'est de leur filer du chewing-gum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une partie des hallucinations sont de la subvocalisation, c'est-à-dire qu'ils sont produits par la personne qui est en train d'halluciner. Et du coup, elle fait des mouvements qui ne sont pas visibles, perceptibles, mais autour de leur corde vocale. Et du coup, si vous leur filez du chewing-gum, ben juste, ils ne peuvent pas, puisque la bouche est occupée. Et du coup, ça diminue la fréquence et l'intensité des hallucinations. Alors, c'est... Bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de labos qui financent des études à coup de chewing-gum. Mais pour le coup, ça fait partie des éléments, pas de bon sens, parce que ce n'est pas le cas, mais naturels, entre guillemets, qui ne nécessitent pas la mise en place d'un traitement, mais qui permettent d'améliorer les choses et aussi qui permettent à la personne de se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas impuissante face à ce qui est en train de se passer pour elle. Donc ça permet quand même un effet levier, un abord motivationnel, comme un petit peu le moment charnière là dans le film où John Nash se rend compte que ok, la petite elle vieillit pas. C'est un moment qui est charnière. S'il n'y a pas ce moment-là, effectivement, il continue dans son délire et il bute sa femme, quoi. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est de leur montrer ok, en fait, il y a un moyen d'action. Et la personne qui est en face de moi, elle propose pas que des traitements, et quand elle propose quelque chose, ça fonctionne. Donc pareil, un lien de confiance qui peut se créer. Donc c'est des, ça vient prouver. C'est pour ça que je la trouve extraordinaire cette étude. Elle vient prouver un que c'est des éléments qui sont autoproduits, et deux que en pratique peut y avoir des liens comme ça qui peuvent se faire. Bien sûr, c'est pas tout le temps, et bien sûr c'est pas la panacée. Je suis pas en train de vous dire que un chewing-gum et on a réglé la schizophrénie. Hein. Mais on peut avoir des changements dans l'alliance thérapeutique, dans la dynamique de soins, sur des trucs tout bêtes, quoi. Personne n'a de questions supplémentaires ? Ça va tout le monde ? Bah écoutez, on rentre dans nos pédates alors. Hein. Ah ouais ? Non. Ouais, ouais, bah, sur le même modèle que l'épilepsie. Hein. L'épilepsie, c'est une contre-indication sur la conduite. Ce n'est pas le cas pour la schizophrénie. Il n'y a pas de pathologies psychiatriques qui sont une contre-indication à la conduite. On pourrait se poser la question. Effectivement, le problème, c'est que bah, dans ce cas-là, on les contre-indique à tout. Donc c'est la question, on parlait de la question pas de l'élasticité, mais de la résilience et de l'adaptation des familles, mais en fait, c'est l'adaptation. C'est comment est-ce qu'on ménage la société ? Là, on le voit un petit peu avec la question des étudiants qui se moquent de notre jeune âge préféré au début et qui, au final, après, commencent à plutôt nouer des liens avec lui. Encore une fois, ça, c'est une question qui dépasse les considérations médicales, entre guillemets. C'est des questions qui sont sociétales. Et c'est une part du courant antipsychiatrique. Pour cette partie-là, moi, j'y suis sensible. Il y a d'autres choses sur lesquelles je ne suis pas du tout sensible, voire très contre ce qu'ils disent. Mais là-dessus, je suis sensible sur le fait qu'effectivement, il puisse y avoir une élasticité. On peut avancer et être un peu moins psychophobe dans une société. On peut prévoir des aménagements, etc. On verra comment ça se passe. Hein. En ce moment, il y a d'autres combats qui ont l'air de brûler un peu plus, mais on verra.
Bon, eh bien, merci beaucoup, docteur Gallet, docteur Madieta, pour ce ciné-débat. Voilà. Et merci à vous d'être venus ce soir. J'espère que vous avez apprécié cette soirée. Voilà.
C'est cool. Il y a deux voix, ouais, je pense que c'est bien. Deux voix, c'est...